Bien, bonjour à tous. Donc, c'est donc effectivement une conférence à deux voix que nous allons vous proposer aujourd'hui dans les circonstances que Gilbert vient de rappeler. Janine interviendra pour déblayer la question des liens entre la CGT et les mouvements de paix, et son champ d'étude ira grosso modo des années 1930, Amsterdam-Pleyel, jusqu'aux années 1990. Mon intervention sera, elle, essentiellement axée sur les rapports entre le mouvement ouvrier et la CGT en particulier, et la question de la paix et de la lutte contre la guerre. Je viserai plus particulièrement la période de la jeune CGT jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, où c'est, on peut dire qu'une grande partie des problématiques touchant ces questions seront traitées à ce moment-là. Et évidemment, je traiterai de manière beaucoup plus rapide l'entre-deux-guerres et la période plus immédiatement contemporaine qui suit la libération jusqu'à nos jours. Alors, immédiatement, une série d'interrogations surgit lorsqu'on évoque le problème de la paix et ses rapports avec le syndicalisme. Si les syndicalistes sont pour la paix, sont-ils pour n'importe quelle paix ? Toutes les guerres sont-elles injustes ? Si le syndicalisme est pour la paix, quelle place occupe, a occupé, la lutte pour la paix dans son activité ? Cette question est-elle une question décisive à laquelle le syndicalisme a tout subordonné ? Enfin, si l'on traite de la question de la guerre et de la paix du point de vue ouvrier, il y a derrière tout cela un arrière-plan, si je peux dire, qui a taraudé tout le mouvement ouvrier de la fin du XIXe siècle jusqu'au cœur du XXe siècle. Mais comment dire ? Karl Marx et Friedrich Engels pouvaient affirmer en 1847 dans le manifeste du Parti communiste que les ouvriers n'ont pas de patrie. Mais il est un fait aussi certain que la quasi-totalité des structures organiques dont s'est doté le mouvement ouvrier en France, mais c'est également vrai aussi ailleurs, sont des structures nationales avec toutes les conséquences que cela emporte. De tout cela va naître de terribles contradictions dont l'été 1914 ne sera que la manifestation la plus spectaculaire. Mais on peut dire que ces contradictions seront toujours présentes, avec plus ou moins d'intensité, bien sûr, selon les périodes, mais nous y reviendrons. Mais avant d'entrer dans le cœur de mon intervention, permettez-moi d'abord d'aborder quelques considérations générales autour du mot paix et de ce concept. Le mot paix est issu du latin pax, paxis. On le trouve dès la seconde moitié du Xe siècle, où il exprime la concorde, la tranquillité, un état où l'on n'est pas en guerre, comme on peut le lire dans la chanson de Rollon, par exemple. Au XIIe siècle, apparaît l'alexis « être en paix ». Mais les origines du concept de paix sont plus anciennes et remontent aux premières manifestations de la pensée philosophique grecque. À l'époque homérique, il n'existait pas de mot pour désigner la paix au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais seulement le terme de trêve, spondaï. La paix désigne en fait le terme de la guerre ou ce qui rend l'arrêt des combats possible. Ceci pour dire que la guerre était donc conçue comme faisant partie de l'état naturel des choses, comme le suggère la formule d'Héraclite, le conflit est père de toute chose. Une autre figure de la paix va apparaître à l'époque classique de l'histoire grecque, lors de l'apogée des cités. C'est celle de l'Érénée, théorisée par Aristote. Celui-ci opère un singulier renversement. La guerre doit être alors regardée comme un moyen en vue de la paix et comme cela uniquement. La paix qui est première devient l'unique but et la fin de la guerre. Fin, non pas comme le terme chronologique, mais la fin comme la visée. Rappelons également que l'Empire romain s'est légitimité par l'instauration de la Pax Romana. Et l'impérateur, l'empereur, est un chef de guerre et de paix. Des rites de paix, d'ailleurs, fonctionnent autour de lieux sacrés, comme l'Ara Paxis à Rome, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Au Moyen Âge, la notion de paix puise sa source dans les traditions vétéro- et néo-testamentaires. Saint Augustin, et par la suite les grands directeurs de conscience du Moyen Âge, ont tous apporté leur contribution à une définition de la paix comme idéal devant inspirer l'action des hommes. Ils inventent alors la notion de guerre juste. Pas de paix sans justice, disait-on. On trouvera une traduction concrète de cette idée autour de l'an 1000, où va se développer, sous la pression des masses populaires et de l'Église, un vaste mouvement de paix qui aboutira à des pacifications partielles et inachevées qu'on appellera les trêves de Dieu, et qui évolueront par la suite en paix du roi ou du prince pour la protection des êtres faibles et désarmés. au temps des Lumières, on retrouve sous la plume de Montesquieu ou de Condorcet l'idée que le doux commerce apportera la paix en opposition au bellicisme supposé des théories mercantilistes, le colbertisme français par exemple ou le caméralisme allemand. Plus proche de nous, Kant rédige en 1795 un projet de paix perpétuelle dont l'ironique ouverture rappelle qu'elle est d'abord celle des cimetières. Quoi qu'il en soit, le projet kantien inaugure, si l'on peut dire, la dernière phase théorique en matière de paix avec l'idée d'une possible régulation de la guerre par le droit et dont on trouvera les premières manifestations dans la création des sociétés de paix au début du XIXe siècle après les massacres des guerres napoléoniennes. Ces sociétés de paix multiplieront les conférences internationales pour la paix tout au long du XIXe siècle. C'est ainsi qu'à partir de 1848, celles-ci vont se tenir régulièrement et prendront un rythme quasi annuel passé 1889. À l'actif de ce mouvement pacifiste, on doit mettre par exemple la création en 1899 à La Haye de la Cour d'arbitrage internationale, mais aussi la création plus tard de la Société des Nations en 1920, ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'Organisation des Nations Unies. À noter que le mot pacifisme, apparaît pour la première fois en français dans les colonnes de la revue Les États-Unis d'Europe, qui sera publiée par Émile Armand de 1867 à 1870. Mais la question sociale devait aussi rencontrer cette orientation pacifiste. Le mouvement ouvrier, alors en cours de formation, prenait conscience d'intérêts communs transversaux aux nations dont les affrontements expliquaient les guerres. Jean Jaurès, à l'Assemblée, le 7 mars 1895, pouvait dire « Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée dormir porte l'orage. » De son côté, la CGT pouvait écrire dans un recueil publié à l'occasion de son 30e anniversaire, en 1925 donc, que celle-ci s'est toujours prononcée contre la guerre. Quelles sont donc les racines de cette position? Dans une brochure publiée en 1910, la CGT expose les résolutions et les actes du prolétariat contre la guerre. Dès 1867, la première AIT décide d'adhérer au Congrès de la paix qui se réunira à Genève, de le soutenir énergiquement et de participer à tout ce qu'il pourrait entreprendre pour réaliser l'abolition des armées permanentes et le maintien de la paix. Les considérants de cette résolution précisent les termes de l'opposition de la classe ouvrière à la guerre. Celle-ci est d'abord rejetée parce qu'elle frappe en premier lieu la classe laborieuse en la privant d'abord d'un moyen d'existence ou en lui faisant verser son sang. Les causes de la guerre sont à rechercher dans le paupérisme et les déséquilibres économiques et que pour supprimer la guerre, il faut revoir l'organisation sociale dans le sens d'une répartition plus équitable de la production. L'année suivante, au Congrès de Bruxelles en 1868, les délégués reprenant l'argumentation ancienne la complètent à leur tour et recommandent comme moyen d'action aux travailleurs de cesser le travail dans le cas où une guerre viendrait à éclater dans leurs pays respectifs. On le voit, dès la fin des années 1860, une grande partie du credo du mouvement ouvrier contre la guerre est déjà fixée. La guerre de 1870 va interrompre ce mouvement, au moins en France. Des considérations intérieures sont bien sûr à retenir. La République, la troisième du nom, fait de l'école et de l'armée alors les deux piliers de la régénération nationale, et donc l'armée devient difficilement touchable dans un contexte de sursaut patriotique. Pourtant, vers 1889, le climat change. L'épisode sans lendemain du boulangisme a fait prendre conscience à l'extrême gauche du danger du militarisme et du patriotisme de pacotille. Des voix s'élèvent alors contre les débordements chauvins et nationalistes qui se manifestent notamment lors de l'affaire Dreyfus. L'antimilitarisme devient alors l'arme par excellence de la subversion sociale. Et il n'est pas difficile pour les premières organisations ouvrières d'identifier dans l'armée le chien de garde du capital. Conquérir le soldat à la cause antimilitariste devient alors un élément essentiel de la propagande syndicaliste révolutionnaire qui va faire du sou du soldat l'une des institutions les plus originales de la jeune CGT. Au congrès d'Amiens, en 1906, une motion introduite par Georges Yvetot précise et étend le rôle assigné à l'antimilitarisme. L'armée n'est pas seulement condamnée pour être la gardienne des privilèges de la bourgeoisie, mais également comme protectrice de la patrie. Le manuel du soldat, va fournir la trame essentielle des discours antimilitaristes et antipatriotiques de la CGT, où se devine l'influence de Gustave Hervé, qui, dans la guerre sociale, défend un antimilitarisme insurrectionnel. L'influence de ce journal sera très importante jusqu'en 1911 et a contribué pour un temps à la radicalisation antimilitariste de la CGT. Pour la guerre sociale, la source du mal réside dans l'idée de patrie, à la fois cause et prétexte du militarisme. De ce constat, elle proclame que le seul moyen d'assurer la paix est de détacher le prolétariat de la patrie. Les efforts engagés par la CGT dans cette direction sont loin d'être négligeables. La propagande syndicale, qui se déploie alors dans les rubriques régulièrement publiées dans la guerre sociale, la vie ouvrière ou la bataille syndicaliste à compter de 1911, à chaque départ de classe, de grandes fêtes sont organisées où les refrains antimilitaristes du chansonnier Montéus sont repris en chœur. La caisse du sous du soldat, longtemps en sommeil, est réactivée au 11e congrès de la CGT à Toulouse en 1910. Face aux menaces de guerre dans les Balkans, la Confédération décide de convoquer un congrès extraordinaire à Paris pour les 24 et 25 novembre 1912, qui décide d'une grève générale pour le 16 décembre de la même année, dont le succès sera relatif sans être insignifiant. Pourtant, 2 ans plus tard, malgré tout cet ouvrage antimilitariste et antipatriotique, la quasi-totalité du mouvement ouvrier français, mais aussi allemand, se ralliait à l'Union sacrée ou à la Burgfrieden, son équivalent prussien, qui signifie la paix au château. Bien sûr, ce spectaculaire renversement possède encore aujourd'hui une part d'ombre ou d'incertitude, mais néanmoins, quelques éléments d'explication peuvent être avancés. D'abord, la force des éléments externes. Il faut rappeler ici l'efficacité de la répression militaire et policière affûtée par de longues années de guerre sociale, notamment sous le magistère de Georges Clemenceau au ministère de l'Intérieur. Il faut rappeler aussi l'efficacité de la machine administrative française et la mobilisation générale décrétée le 1er août 1914 se produit sans anicroche, rendant particulièrement difficile toute action pour tenter de s'en extraire. En outre, la menace d'application du carnet B fait peser une épée de Damoclès sur la plupart des cadres syndicaux et politiques connus pour leur antimilitarisme. Et si l'on se place du point de vue syndical, il faut rappeler que dans les congrès, les motions antipatriotiques n'ont jamais recueilli de larges majorités. Dès 1913, des interrogations nouvelles se font jour. Les menées antilimitaristes n'ont-elles pas trop éloigné la CGT du seul combat décisif, celui qui porte sur l'action économique? Dans la bataille syndicaliste, un article intitulé « Notre proposition » puis est publié le 20 août 1912 par Jouot, Griffus, Voirin, Savoie et Bled, s'en prête notamment aux violences démagogiques d'Hervé et souligne avec force l'impuissance des gesticulations verbales des partisans de l'antimilitarisme. Sans doute, l'impact de la propagande antimilitariste fut réel, comme le démontre la multiplication des cas d'insoumission, de mutinerie ou de désertion avant 1914. Néanmoins, beaucoup de leaders révolutionnaires se leurraient sur la solidité de la fibre révolutionnaire du prolétariat français. Enfin, pour conclure sur les raisons qui peuvent expliquer ce ralliement brutal à l'Union sacrée, il faut aussi rappeler les difficultés soulevées par la dimension internationale de l'action du mouvement ouvrier européen. Le débat sur la guerre traverse également le mouvement socialiste. Le 7e Congrès socialiste international, réuni à Stuttgart le 18 ou 24 août 1907, avait, au terme de longs débats, voté une position de principe qu'on pourrait définir, à minima, contre la guerre. Elle souligne toutes les difficultés rencontrées par la Seconde Internationale pour débattre des problèmes posés par le militarisme et la guerre. Malgré les efforts des socialistes français, dont Jean Jaurès et Édouard Vaillant, les socialistes allemands qui dominent l'international se montrent farouchement hostiles à l'orientation prônée par les Français sur la grève générale contre la guerre. Au fond, la question centrale ne touche-t-elle pas à l'orientation du mouvement socialiste de la Seconde Internationale? Depuis 1890, celui-ci n'aurait-il pas, sous le masque d'une phraséologie révolutionnaire, renoncé en réalité à une action de transformation sociale? Au cours des années précédant 1914, les partis socialistes européens ne se sont-ils pas progressivement transformés en de partis révolutionnaires en partis d'opposition intégrés dans le système parlementaire? En brouillant les repères de classe, la question nationale, qui est le corollaire de l'intégration du mouvement ouvrier dans les institutions partisanes des États européens, n'a-t-elle pas ouvert la voie à la faillite de la Deuxième Internationale en 1914? De son côté, le syndicalisme international souffre de nombreux défauts. Il s'apparente à une structure bureaucratique dénuée de toute autonomie d'initiative. En outre, il est dominé par le modèle social-démocrate et son bureau est fixé à Berlin, dont son secrétaire est le dirigeant allemand Karl Liégien. La CGT, en son sein, tente de faire entendre sa voix sur les problèmes de l'antimilitarisme et de la grève générale de la grève générale en cas de guerre. La mission de Victor Grifols en 1906 pour proposer à Berlin une manifestation franco-allemande conjointe contre la guerre reçoit une fin de non-recevoir, les sociaux-démocrates allemands considérant que ces questions intéressent essentiellement les partis et non les syndicats. Cet épisode, néanmoins, enracine dans la direction de la CGT la conviction que la réponse des Allemands n'est qu'une échappatoire dissimulant leur réticence à organiser la résistance des prolétariats à la guerre. Renoués en 1909, les contacts internationaux demeurent marqués par la persistance des divergences de conception antérieures et ne se traduisent que par des initiatives de coopération limitées et inopérantes et elles ne lèvent pas les équivoques. Quoi qu'il en soit, en août 1914, la très large majorité de la direction de la CGT se rallie à la défense nationale, en tout cas au soutien à la guerre et au gouvernement. Pourtant, des opposants vont s'exprimer. En décembre 1914, Monnat démissionne du comité confédéral de la CGT et diffuse sous la forme d'un tract clandestin sa lettre de démission où il critique la direction de la CGT et en appelle à l'objectif internationaliste afin que l'humanité connaisse la paix de la liberté au sein des États-Unis du monde. En 1915, lors de la première conférence de la paix, l'opposition internationaliste se structure et envoie deux délégués, Mehrheim et Bourderon, à la conférence de Zimmerwald organisée en septembre 1915 en Suisse, où des délégués des différents pays belligérants affirment leur opposition commune à la guerre, puis en appellent à l'internationalisme et à la lutte des classes des travailleurs. À Paris, se forme en novembre 1915 un comité d'action internationale rapidement renommé Comité pour la reprise des relations internationales, le CCRI, qui ressemble à la fois des syndicalistes, des socialistes et des anarchistes. Celui-ci publie clandestinement de nombreux tracts et brochures qui parviennent aux soldats jusque dans les tranchées. C'est par ailleurs au sein du CRI, du Comité relations pour la reprise des relations internationales, qui est créé en septembre 1916, un comité de défense syndicaliste supposé rassembler les militants zimmerwaldiens de la CGT. En réalité, sa création découle en grande partie de tensions au sein de cet organisme, y compris entre les syndicalistes. La révolution russe de février et mars 1917 fait immédiatement très forte impression. Dès le 29 mars, le CCRI organise un meeting en l'honneur de la révolution dans les locaux de l'Union des syndicats CGT de la rue Grand-Jobel. Cette réunion est autorisée par le gouvernement, compte tenu que la Russie, à l'époque, est toujours alliée à la France, et donc un meeting de soutien pour un pays allié à la France ne pouvait être interdit. Mais devant un millier de participants, Mehrheim salue le peuple russe qui a jeté à bas son gouvernement de despote, tandis que le socialiste russe en exil, Alexandre Lozovsky, insiste sur le rôle majeur du soviet de Petrograd et assure que la révolution signifie la paix, non pas la paix séparée avec l'Allemagne, mais la paix totale, absolue, définitive. Nous sommes bien là, loin des discours officiels du gouvernement français. En avril 1917, le CERI affirme que la glorieuse révolution russe ouvre une nouvelle ère dans l'histoire du monde et déclare qu'à la guerre mondiale doit répondre la révolution mondiale. La prise du pouvoir en Russie par le parti bolchevique en octobre et novembre 1917 n'a pas alors d'effet important sur la CGT qui demeure dans l'immédiat dubitative. Pourtant, dès janvier 1918, elle va accueillir favorablement les 14 points du président Wilson et la promesse de paix universelle qu'elle contient. Mais par la suite, la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918 entre la Russie et les empires centraux, dont l'Allemagne, est plutôt mal perçue par la majorité confédérale qui l'assimile à une trahison. De son côté, le CERI publie en mai 1918 un tract intitulé « Pour la révolution russe, pour la paix, pour la révolution sociale ». L'objectif reste donc la révolution mondiale pour arrêter la guerre, obtenir la paix générale sans annexion et sans indemnité et permettre d'aller ainsi vers le socialisme. Je vais maintenant aborder la question de la position de la guerre, de la CGT vis-à-vis de la guerre et de la CGTU vis-à-vis de la paix et de la guerre entre la scission 1921 et 1936. Et là, deux conceptions vont alors clairement s'affronter. Passé l'armistice de 1918 et la scission, la CGT va approfondir sa politique de présence engagée au cours de la Première Guerre mondiale. Elle obtient la possibilité de représenter les travailleurs dans les nouvelles instances internationales, le BIT et l'OIT, où la France occupe des positions fortes avec la présence au sein de leurs bureaux respectifs d'Albert Thomas et d'Arthur Fontaine. Elle conduit son activité internationale principalement alors à travers deux axes. D'une part, le soutien de la CGT au Wilsonim se prolonge par son investissement dans la lutte pour le désarmement général. Ainsi, en 1924, Léon Jouot, devenu vice-président de l'Internationale d'Amsterdam, c'est l'ancienne FSI, Fédération syndicale internationale, créée juste avant la Première Guerre mondiale, participe à l'Assemblée de la SDN comme membre de la délégation française. Elle prend alors position contre l'occupation de la RUR, mais décline toutes les offres d'action commune faites par la CGTU. Et d'autre part, pour éliminer les facteurs de la guerre, la CGT soutient la thèse de la collaboration économique des pays. Ce thème sera d'ailleurs le fil conducteur de l'intervention de Jouot à l'Assemblée de la SDN en 1924. Et il obtiendra en 1928 la création d'une instance d'un comité consultatif économique au sein de la Société des Nations. L'autre fraction issue de la scission, la CGTU, elle, renoue avec la tradition antimilitariste et antipatriotique d'avant 14. Elle dénonce donc la déprime de Genève et s'oppose à toute participation ouvrière à la vie de la nation. La CGTU va ainsi se mobiliser contre l'occupation de la RUR en 1923. Elle va prendre en 1925 des positions courageuses contre les menées impérialistes françaises en Syrie et au Maroc. Et à ce titre, d'ailleurs, elle va organiser le 12 octobre une grève générale pour dénoncer la guerre du RIF. Enfin, pour abréger cette énumération, elle participera également activement à la campagne en faveur de Zacco et Vanzetti en 1927. Abordons maintenant l'attitude de la CGT réunifiée et du mouvement ouvrier devant les problèmes de la défense nationale à la fin des années 1930. La position de la CGT à l'endroit de la guerre civile espagnole est sans ambiguïté. Elle est proche de celle du Parti communiste et elle se dresse immédiatement contre le coup d'État franquiste et affirme son soutien au peuple espagnol. La lutte des républicains espagnols est présentée comme une lutte universelle contre le fascisme et la CGT met l'accent sur les conséquences d'une éventuelle victoire franquiste et sur le risque de voir la sécurité de la France menacée aux trois frontières. En janvier 1939, alors que l'offensive finale est lancée en Catalogne, la commission administrative de la CGT en appelle au gouvernement et dans une déclaration intitulée « Le maintien de la non-intervention n'est plus possible ». Toutefois, une minorité pacifiste commence à se dessiner à l'automne 1936 en son sein. Y figurent Auguste Savoie de l'alimentation, Pierre Vigne du sous-sol ou Georges Dumoulin de l'Union départementale du Nord. André Delmas, secrétaire général du syndicat national des instituteurs, se prononce officiellement pour la politique de non-intervention au mois de décembre 1936. René Belin, secrétaire confédéral et directeur de syndicat, est sur la même ligne. C'est au sein de la CGT qu'une fraction importante des dirigeants considère que Léon Blum et sa politique de non-intervention, c'est la paix. Ceci posé, l'action de la CGT en faveur de l'Espagne républicaine ne s'est jamais démentie et elle a revêtu de multiples formes qui se sont exprimées par l'envoi d'aide humanitaire, par l'accueil des enfants, par l'aide aux réfugiés ou l'engagement des syndiqués dans les brigades internationales. Malgré quelques dissidences, l'ensemble des structures de la CGT ont participé à l'effort de solidarité. La seule différence notable se situe au niveau de l'engagement dans les brigades internationales, qui semble être une spécificité des unitaires. Mais devant la montée des pyrènes, la CGT se déchire. La crise tchécoslovaque en septembre 1938 et qui se conclut le 30 septembre par les accords de Munich accentue le malaise. Les partisans de la paix à tout prix, André Delmas du syndicat national des instituteurs et l'équipe de syndicats, le journal, s'opposent aux unitaires et ceux qui, comme Jouot, pensent qu'il est grand temps de marquer un coup d'arrêt au diktat du chancelier nazi. L'échec de la journée de grève générale du 30 novembre 1938 avive les tensions déjà fortes entre les tendances, chacune accusant l'autre d'être responsable de la défaite syndicale. La signature, le 23 août 1939, du traité de non-agression germano-soviétique déclenche une vague d'anticommunisme sans précédent dans le pays qui n'épargne pas la CGT. Quelques jours plus tard, le 1er septembre 1939, les troupes nazies envahissent la Pologne, la France et le Royaume-Uni en application de leur alliance, déclarent alors la guerre à l'Allemagne. Le 17 septembre 1939, l'armée rouge entre à son tour en Pologne. La chasse aux communistes touche alors frontalement la CGT. Partout, parfois avec l'aide de la police, les syndicats à direction unitaire sont démantelés et dissous pour être aussitôt remplacés par des syndicats à direction réformiste. Dorénavant débarrassés des unitaires, la tendance syndicat pèse de tout son poids sur l'orientation syndicale de la CGT. L'action antifasciste est reléguée au second plan au profit d'une hypothétique recherche d'une politique de collaboration qui annonce dès janvier 1940 les abandons et les compromissions futures. Je vais donc aller maintenant très rapidement sur la période suivante pour laisser un peu d'expression à Janine. Et pour tout dire, qu'entre 1948 et la fin des années 1980, il faut distinguer, semble-t-il, pour les campagnes syndicales et politiques engagées pour la défense de la paix, les initiatives qui ne relèvent que des seules décisions de la CGT et celles qui s'insèrent dans des mobilisations impulsées par le mouvement communiste dans son ensemble. Dans la première catégorie, on peut ranger les combats de la CGT et du PCF contre les guerres coloniales menées en Indochine puis en Algérie. Dans la seconde, il faudra ranger, par exemple, les campagnes pour la paix qui ont lieu tout au long, entre les années 1948 et 1960 en pleine guerre froide, ou les campagnes contre l'intervention américaine au Vietnam entre 1965 et 1973. Bon, Janine, bien sûr, vous dira quelques mots par la suite. Pour conclure, donc, je vais évoquer très rapidement l'action de la CGT contre les guerres coloniales, et notamment en Indochine, puis en Algérie. Sur le conflit indochinois, la CGT se situe à la pointe du combat internationaliste. De janvier 1948 à 1954, la centrale de Frachon n'aura de cesse de dénoncer les erreurs et la violence du corps expéditionnaire français et d'appeler à l'ouverture de négociations. Des manifestations sont organisées, notamment celle qui a lieu au stade Buffalo à Paris en juin 1950. Mais la CGT s'engage pleinement aux côtés des cheminots à Nantes ou à côté des dockers de Marseille ou du Havre. La répression sera d'ailleurs féroce et elle ne l'épargne pas. Lucien Milineau, André Lelap sont arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État, sans soulever d'ailleurs des protestations des autres centrales syndicales, ce qui en dit long sur l'ambiance de l'époque et l'isolement de la CGT dans son combat internationaliste. L'engagement de la CGT dans la guerre d'Algérie va provoquer des ébranlements d'une plus grande ampleur au sein de l'organisation. La position initiale de Benoît Frachon en faveur de l'indépendance de l'Algérie n'emporte pas une adhésion immédiate. Le nationalisme arabe, teinté d'affirmations religieuses, soulève des interrogations, y compris jusqu'aux instances dirigeantes de la centrale ouvrière. L'avenir des structures CGT en Algérie interroge également. Et il faudra à Frachon batailler dur pour imposer sa ligne et leur dissolution au profit de l'Union générale des syndicats algériens. Quand qu'il en soit, la CGT sera la seule organisation syndicale à soutenir durant tout le conflit les aspirations nationales du peuple algérien. De 1958 à 1962, l'axe et l'action de la CGT se déplacent un peu pour se diriger essentiellement contre les menées factieuses conduites en Algérie et en France par les ultras et les militaires français. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Janine.
Alors, merci Jérôme. Donc maintenant, Jeannine, vous l'avez compris, il a essayé de faire une transition et va prendre la suite.
Disons que la responsabilité, c'est plus de traiter des rapports de la CGT et des mouvements anti-pacifistes. Donc, je vais laisser toute la partie avant la Première Guerre mondiale et l'immédiateté après la Première Guerre mondiale. Et puis simplement rappeler une phrase justement après de l'historien Maurice Sagulon, qui dira quelques années plus tard, il faut distinguer ceux qui se réjouissent de la paix et ceux qui se réjouissent de la victoire. Deux conceptions qui divisent profondément la France et le pacifisme l'emporte sur le nationalisme. Les écrivains Henri Barbusse et Romain Rolland lancent un appel le 22 mai 1932 à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, si je puis dire, quelles que soient leurs affiliations politiques, religieuses, etc., pour participer à un congrès mondial contre la guerre. La CGTU répond présente très rapidement. Elle adhère dès le 28 mai. 50 UEL et régions, 200 sections syndicales locales adhèrent aussi à cette préparation. Mais les organisateurs, donc les deux écrivains, ne peuvent se satisfaire du seul soutien de la CGTU. Et ils entament des démarches avec les paysans, comme la Confédération générale des paysans travailleurs et la Fédération ouvrière paysanne en direction, des fonctionnaires aussi et des personnels à statut et des enseignants. Les résultats sont limités. En fait, le SNI, qui est adhérent de la CGT confédérée, adhère en août 1932 et 12 jours après la Fédération autonome des fonctionnaires, mais la CGT en tant que telle reste à l'écart. Le congrès a lieu à Amsterdam, 27-28-29 août 1932. Il rassemble 2196 délégués de 26 pays, Julien Racamon qui représente la CGTU. 46% des participants au congrès sont d'origine syndicale, ce qui est intéressant de noter. Trois syndicats français interviennent, le SNI, la Fédération autonome des fonctionnaires et la CGTU. En 1933, la victoire d'Hitler redéfinit partiellement les données du problème. Le 15 février 1933, des syndicats allemands, italiens, polonais, sous l'influence de l'Internationale syndicale rouge, lance un appel en vue d'un congrès ouvrier européen antifasciste. Le journal L'Humanité publie l'appel le 18 mars 1933, La Vie ouvrière le 29. Henri Barbusse est pour une action commune en faveur de la classe ouvrière allemande et autrichienne et avance l'idée d'une conférence de solidarité. Le congrès européen antifasciste, à l'initiative des syndicats européens, se tient salle Pleyel à Paris le 4 juin 1933. Largement soutenu par l'Internationale syndicale rouge et le Parti communiste français. Il réunit 3285 délégués de 14 pays européens, mais il n'est pas aussi large que le Rassemblement d'Amsterdam. Julien Racamon de la CGTU est le porte-parole pour la France de tous. Comité d'Amsterdam, Association d'anciens combattants, Ligue anti-impérialiste, Organisation pacifique, etc. Il préside et prend la parole et relie les luttes contre la guerre et le fascisme. Comme l'a dit Jérôme, le lendemain, il y a une grande manifestation au Stade Buffalo qui rassemblera plus de 50 000 personnes. Et donc, face à la multiplication d'initiatives antifascistes, le mouvement Amsterdam et celui de Pleyel fusionnent, créant en fait un nouveau mouvement dans lequel différents syndicats se côtoient. C'est-à-dire qu'on a un peu la réunification syndicale à travers cette mise en place de l'association. Parallèlement, le 5 mars 1933, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes associe la CGT et la CGTU, et Henri Barbusse, conscient des difficultés de son mouvement à rassembler seul les luttes antifascistes, propose la mise en place d'un rassemblement national antifasciste. Il en confie l'organisation à Julien Racamon de la CGTU. Ce rassemblement a lieu en mai 1934 à Paris. Et chaque séance est présidée par deux syndicalistes d'obédience différentes. C'est-à-dire qu'on a avancé un petit peu dans la cohésion syndicale dans les mouvements pacifistes. À l'issue du congrès, une charte revendicative sera adoptée et se met en place un comité de coordination des forces antifascistes. Et on va avoir une multiplication de comités, de congrès, de mise en place de commissions qui font que ça avance, notamment à l'occasion de la manifestation du 6 février 1934 par les forces de droite et les fascistes, qui est dénoncée par les organisations syndicales et les organisations antifascistes. L'ampleur de la riposte le 12 février atteste que leur opinion est largement partagée et elle relance les comités antifascistes et participe à la réunification de la CGT et de la CGTU. Lors du congrès de la réunification en mars 1936, trois points de vue se dessinent. Faire confiance au gouvernement pour faire aboutir une politique de désarmement simultanée et générale, où la paix ne peut venir que de l'intervention des masses populaires, et pour d'autres, enfin, combattre par tous les moyens la guerre, y compris par la grève générale en cas de mobilisation. Alors que les congressistes adoptent à l'unanimité une résolution contre le fascisme, les syndicalistes se divisent sur la lutte contre la guerre. La CGT unifiée doit faire face, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, à une nouvelle question, la guerre d'Espagne. Elle dénonce la politique de non-intervention et organise l'aide à la République espagnole. Le SNI, lui, calque son attitude sur celle du gouvernement de non-intervention et il n'échappe pas aux divisions internes. L'ouverture du Rassemblement universel pour la paix en septembre 1936 contre la montée du fascisme rassemble 4500 délégués et la CGT est représentée par Léon Jouot et Julien Racamon. C'est une avancée dans l'unification syndicale à l'intérieur des mouvements pacifistes. Malheureusement, deux ans plus tard, ce sont les accords de Munich signés entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie qui sacrifient la partie de la Tchécoslovaquie peuplée des Sudètes et l'opinion publique approuve Munich au nom du pacifisme. Le Parti communiste dénonce, la SFIO accepte le compromis et le Centre syndical d'action contre la guerre fondé en 1938 se renforce. Toutefois, le pacifisme intégral est en recul et se trouve désormais marginalisé. La déclaration de guerre de 1939 va se traduire par une guerre de type nouveau où ceux qui se sont investis dans la lutte antifasciste choisissent la résistance, rejoints par de nombreux syndicalistes. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la lutte pour la paix s'oppose différemment. Dans un monde profondément transformé, c'est entre 1944 et 1947 que se produit un changement total de la situation mondiale. On est passé de la joie de la victoire remportée par une grande alliance des peuples contre le fascisme à une nouvelle angoisse permanente. Ce sont les premières années de la guerre froide. Une première série de problèmes concerne l'Europe avec la question de sécurité collective et du réarmement allemand. Une seconde, les guerres coloniales. Les guerres coloniales françaises, Indochine et Algérie. Celle de libération des peuples. Un troisième domaine est celui des armes de destruction massive, principalement les armes nucléaires. Sur cette question du désarmement, notre fédération CGT des travailleurs de l'État, avec ses syndicats des usines d'armement, fait des propositions de reconversion de leurs activités en d'autres produits répondant aux besoins de la population, tout en maintenant des productions d'armes aux seules fins et besoins de la défense nationale, non pour la guerre, non pour la vente d'armes. Depuis 1949, le Parti communiste insiste pour l'organisation d'un congrès sur les questions de la paix. Cet événement se tient à la fois à Paris et à Prague, puisqu'il n'y a pas eu de visa pour les camarades venant des pays socialistes. En avril 1949, la décision est prise de constituer le Conseil mondial de la paix, dont Frédéric Joliot-Curie devient le premier président et la colombe de Picasso devient le symbole. La CGT en fait partie, mais la base de ce mouvement est étroite même si on retrouve de grands scientifiques, des artistes qui côtoient des syndicalistes, essentiellement de la CGT. Après avoir lancé ces bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et 7 août 1945, les États-Unis rendent public leur programme d'armement nucléaire. Les Soviétiques feront exploser leur première bombe atomique le 29 août 1949. C'est le commencement d'une course aux armements qui fait peser de graves dangers à la paix et mobilise des sommes énormes, et cela concerne évidemment le syndicalisme. La dénonciation de la guerre atomique par le mouvement mondial des partisans de la paix prend une dimension exceptionnelle. Réuni à Stockholm le 19 mars 1950, il lance un appel connu sous l'appel de Stockholm. Les intellectuels se mobilisent dans le monde entier en France, dont Pablo, Picasso, Neruda, Amado, Aragon. L'appel de Stockholm recueille 15 millions de signatures en France et 600 millions dans le monde. L'appel de Stockholm mobilise beaucoup de monde et témoigne d'une forte préoccupation de l'opinion publique. La CGT se mobilise jusque dans les entreprises. En 1957, l'ONU met en place l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire, limitant le développement de ses applications militaires. En avril 1955, Germaine Guillet, secrétaire de la CGT, responsable des questions internationales, est élue au mouvement de la paix. Elle va participer à de nombreuses réunions internationales, des congrès entre 1955 et 1959. Elle assurera aussi la solidarité avec l'Indochine et l'Algérie, puisqu'elle est responsable des questions internationales pour la CGT. Mais la CGT choisira de soutenir les peuples de ces pays, y compris en s'opposant aux différents gouvernements qui ont perpétué ces guerres. La CGT et d'autres organisations et partis mènent une lutte constante contre la guerre d'Algérie, comme l'a rappelé Jérôme. Et la CGT en payera un lourd tribut lors de la violente intervention policière lors de la manifestation du 18 février 1962, qui fera 9 morts, dont 8 syndiqués de la CGT, le 9e étant un jeune de 16 ans, au métro Charonne, bien évidemment. Comme je l'ai dit, Germaine Guillet assiste à beaucoup, beaucoup de rencontres internationales pour la sécurité en Europe, la détente contre les armes nucléaires, pour le traité de paix en Allemagne. En octobre 1961, il y a une crise dans le mouvement de la paix français. Fallait-il condamner les expériences nucléaires soviétiques comme les américaines ? Germaine Guillet dira « Il ne faut pas confondre les effets et la cause ». Certes, cela n'empêchera pas que la CGT soit considérée comme partisane et affaiblit sa voix dans la lutte contre les armes et pour la paix. Après avoir représenté la CGT dans beaucoup d'instances internationales, elle participe pour la dernière fois à un congrès mondial de la paix qui se tient à Moscou. Mais son action ne se limite pas seulement à être dans des réunions. Par exemple, en mars 1963, elle mène avec la Fédération de l'éclairage à l'époque, maintenant c'est la Fédération de l'énergie et des mines et d'énergie, elle mène une action contre le détournement de la centrale nucléaire de Chinon à des fins militaires. Un grand rassemblement se tient au stade de Saint-Ouen avec le mouvement de la paix pour demander la ratification par la France du traité de Moscou signé en juillet 1962 qui interdit les expériences nucléaires. Elle va le signer dans un premier temps, puis elle va reprendre des essais nucléaires et elle les arrêtera définitivement en 1996. Germaine Guillet aura donc participé pendant 18 ans à ces instances internationales et nationales au nom de la CGT. Elle sera remplacée par Jean Schaeffer, qui est élu au bureau confédéral en 1955 et prendra le relais. Mais il est issu d'une famille dont une branche est française et l'autre est allemande. Il est particulièrement concerné par ce problème et il entama sa vie militante sous le signe du pacifisme bien avant que la CGT lui demande d'être pour elle au moment de la paix. Au bureau confédéral, il a la responsabilité du peuple, du service juridique et des questions de la paix. Il est élu au Conseil national du mouvement de la paix et comme pacifiste en 1955 et au bureau en 1962, il suivait la même trajectoire que Germaine Guillier. Mais surtout, il écrira beaucoup dans Le Peuple, dont il est directeur sur les sujets de la paix et les syndicats. À cette époque, il existait quelques comités dans les entreprises comme à la RATP. Il écrit aussi contre les guerres coloniales, Algérie, Vietnam, sur la paix au Moyen-Orient, sur les négociations d'Helsinki, pour le désarmement et la coexistence pacifique, et aussi sur les guerres de libération, ce qui n'était pas évident pour tout le monde de parler de la paix et de soutenir des guerres. En juillet 68, il y a la signature à Londres, Moscou et Washington du traité de non-prolifération de l'arme nucléaire qui prend effet le 5 mars 1970. 5 États sont dotés de l'arme nucléaire, les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la République populaire de Chine. Après la signature du traité, 3 États ne l'ayant pas signé ont procédé à des essais, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. En 1972, deux traités sont signés entre les États-Unis et l'Union soviétique, de durée limitée, avec l'objectif de réduire 2 sites, puis un, à partir de 1974, de déploiement des systèmes antimissiles, et de limiter le nombre d'armes stratégiques de chaque pays. Cet accord conforte l'action menée par les pacifistes, tout particulièrement par le mouvement de la paix, mais aussi par les organisations syndicales de la CGT, faisant le lien entre la course aux armements et les moyens pour les progrès sociaux. Le mouvement mondial et français de la paix mobilise l'opinion publique. Et on va sentir un petit décalage. C'est plus les mouvements pacifistes qui vont prendre le pas sur le mouvement syndical pour mener les actions pour la paix. Mais, bien évidemment, la CGT se joindra à ces actions, mais elle ne sera pas à l'initiative. Alors que les discussions des accords d'Helsinki, le 3 juillet 73, vont durer jusqu'en 75, qui sont ratifiées par les deux plus grandes, donc les États-Unis et l'URSS, ont la particularité sur les 10 points, c'est d'avoir adjoint le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en pleine guerre froide. C'est quand même intéressant parce que ça donne une ouverture sur la lutte qui n'est pas étroitement pacifiste, si je puis dire, mais qui donne le contenu de liberté, des besoins, de réponse aux besoins. Schaeffer quittera la direction de la CGT, c'est Jeannine Marest qui prendra le relais pour le bureau confédéral. En 1978, l'ONU organise sur plusieurs mois une conférence sur le désarmement. Le Conseil mondial de la paix décide d'envoyer une délégation permanente à New York pour rencontrer toutes les délégations des pays membres de l'ONU. Le Conseil mondial de la paix va donc faire appel à tous ses adhérents pour assurer à tour de rôle cette délégation. Jeannine Marest participera à cette délégation 4 jours en mai 1978, en même temps qu'un ministre de Guinée, un ministre turc et un député social-démocrate de Finlande, en plus du président du Conseil mondial de la paix. À cette occasion, elle participe à la rencontre avec une délégation de Grande-Bretagne, la rencontre avec la délégation du Sénégal dirigée par Léopold Senghor, à la rencontre avec des collaborateurs de l'ONU, et elle anime un débat avec des syndicalistes de New York lors d'une demi-journée d'études sur les questions de désarmement. Ce qui est intéressant de noter, c'est la présence de la CGT dans cette délégation au Conseil mondial de la paix, essentiellement composée de politiques, que j'ai mis entre guillemets, pour démontrer les raisons spécifiques des syndicalistes d'agir pour le désarmement. Comme ses prédécesseurs, Jeannine Marest sera membre du bureau du mouvement de la paix et elle participera au congrès du Conseil mondial de la paix qui se tiendra à Varsovie en 1977. Une nouvelle question va se poser pour la mise en place des fusées américaines Pershing. Fallait-il agir contre celles-ci seulement ou agir contre les fusées Pershing et les SS-20 soviétiques qui venaient de voir le jour ? Il y a eu des discussions sérieuses au sein du mouvement de la paix, qui n'étaient pas très élargies, mais qui comportaient quand même un certain nombre de chercheurs, d'hommes et de femmes non engagés politiquement, des chrétiens, des protestants et même un amiral. La raison l'emporta. L'action se mena sur le mot d'ordre « ni Pershing, ni SS-20 ». Au printemps 82, sous l'impulsion de Georges Segui, l'appel des 100 naît de la prise de conscience de personnalités différentes, aussi bien dans leur profession que dans leur option philosophique, politique et religieuse. Parmi les 100, on note le professeur Albert Jacquard, Hervé Bazin, Claude Pieplu ou encore le professeur Schwarzenberg, Jacques Denis pour le PCF et Bernard Lacombe pour la CGT. Dans un monde en 82 fortement bipolarisé par la guerre froide, l'appel des 100 se veut internationaliste et hors de tout clivage afin de faire triompher la paix sous le thème « négocier à l'Est et à l'Ouest ». L'appel des 100 décide d'appeler à une marche pour la paix à Paris le 20 juin 82, couronnée d'un formidable succès. 500 000 personnes participent à cette marche. Et les 100 conviennent de rester unis pour prolonger leur action. Une délégation composée de Suzanne Proulx, écrivain, de Jacques Denis du Parti communiste, de Maxime Le Forestier, chanteur, et de l'amiral Sanguinetti est reçue au siège de l'ONU à New York. Le 15 septembre 1987, l'appel des 100 se voit officiellement décerné par les Nations Unies le titre de messager de la paix. Dans le même temps, l'organisation pacifiste devient membre du Bureau international de la paix. Parallèlement, la CGT suit son action. En 86, Louis Vianney, dans son rapport, déclare « La paix est un aspect essentiel de notre combat ». Cette année 86, déclarée « Année de la paix » par les instances internationales, est aussi celle où les États-Unis bombardent 3 villes de Libye. Et dans son rapport à la CE en 87, Jeanine Marest revient longuement sur les questions relatives à la paix. De nombreuses manifestations sont entreprises dans les années 82-90. L'appel des 100 participe à une forte prise de conscience de l'opinion publique et à la construction d'un rapport de force en faveur de la paix. En 2000, l'association opère un rapprochement organisationnel avec le mouvement de la paix. Bernard Lacombe écrira de nombreux articles dans Le Peuple sur la paix, le désarmement et la course aux armements, mais aussi sur la guerre en ex-Yougoslavie. Lors d'un voyage, il apportera sa solidarité à Sarajevo et Vukovar, puis apportera son soutien au mouvement pacifiste de Serbie. En janvier 1991, la CGT, comme l'a dit Gilbert, s'élève vivement contre l'entrée en guerre par les Américains en Irak. Les années 90 sont marquées par une avancée considérable, et je m'y arrête 2 minutes. La discussion de la signature de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Elle traite de la mise au point, de la fabrication, du stockage, de l'usage des armes chimiques et sur leur destruction. Signée le 13 janvier 1993, elle entre en vigueur le 29 avril 1997. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre fédération CGT des industries chimiques s'est directement investie dans les discussions. Paul Tabary, membre de sa CE, a participé tout au long des discussions pour faire reconnaître le rôle des salariés, des entreprises concernées, afin de vérifier que les accords sont bien respectés à la satisfaction des participants aux négociations. C'était une grande première. Je crois qu'il n'y a pas eu de renouveau. Après le départ de Bernard du Bureau confédéral, c'est Jacques Aubryet, un collaborateur de la CGT, qui suivra les questions, puis François Blumenthal, directeur financier. Et puis, il y aura un certain vide, malgré qu'il y a encore des guerres un peu de partout. Mais en 2017, même si je devais m'arrêter un petit peu avant, c'est pour redonner un peu de l'espoir. Il y a une commission sur la paix qui est mise en place par la CGT. Une commission exécutive de septembre 17, cette question est mise à l'ordre du jour. Et dans son rapport au CCN en mai 18, Francis Sanjay écrit « La troisième guerre mondiale est bien sociale ». Je rappelle que c'était le titre du livre de Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, membre du bureau du BIT. Donc, Francis, il écrit « La troisième guerre mondiale est bien sociale », ajoutant « pas que ». Et il ajoute « Comme disait Jean Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Et tout en dénonçant les atrocités commises contre le peuple syrien par le régime Bachar el-Assad, la CGT s'est élevée contre les propos va-t-en-guerre du président Macron, mettant ses pas dans ceux de Donald Trump, président des États-Unis. Nous devons rappeler notre exigence du respect des institutions internationales, notre engagement pour la paix dans le monde Les autoproclamés gendarmes du monde sont bien plus tolérants ou aveugles, c'est selon. Quant à la politique d'Israël menée par Netanyahou, il ne s'alarme guère des crimes perpétuels en quatre des peuples palestiniens, malgré les multiples condamnations de l'ONU. Dans un monde traversé par des guerres dévastatrices, ou presque sur tous les continents, qui génèrent mort, misère et immigration, il est du devoir des organisations syndicales de répondre présent contre les guerres et pour le règlement pacifique des conflits, comme elle a toujours su le faire, et c'est tout à son honneur. Voilà. J'étais un petit peu longue, excusez-moi.